Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco!
Cacca in percussione, cerca l'ingresso in area ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, Cacca!
Pallone che arriva, Trezeguet! Totti! Trezeguet! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Per tutti noi Matador, ci prova con il destro,
si gonfia la rete, Matador, mamma mia Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 10 du podcast Calcio e Pepe, le podcast 100% foot italien, un podcast hebdomadaire, vous en avez désormais l'habitude. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan et salut à tous.
Alors Guillaume, je te propose de revenir sur la 8e journée de Serie A pour commencer ce podcast. Ouais. On va dérouler le sommaire rapidement. On fera ensuite une chose qu'on avait imaginée déjà depuis quelques temps, un premier bilan, parce qu'on en est déjà à la 8e journée. Donc un peu plus d'un quart du championnat quand même qui s'est déjà déroulé. Donc on peut faire un premier petit bilan et le bilan, on va le faire avec les 4 choses marquantes pour toi et pour moi aussi. Ce qui nous permettra d'aborder pas mal de sujets. Et puis enfin, on fera un dernier sujet sur le choix des tweetos. On leur a proposé plusieurs sujets hier soir. Et donc, c'est le sujet sur Alan et une possible arrivée avec la Nazionale qui a remporté le plus de suffrages. Et on parlera évidemment de la liste parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire avant les deux matchs cette semaine de l'équipe italienne. Alors Guillaume, on commence par la 8e journée de Serie A. Et je te propose évidemment honneur aux champions. La Juve qui s'est imposée sur le terrain de l'Udinese 2-0. Qu'est-ce que tu retiens principalement de ce match?
Bah, qu'est-ce que tu veux retenir de la Juve? Chaque week-end, j'ai l'impression qu'on se répète. C'est solide, c'est fort, c'est pas exceptionnel, mais chaque week-end ils sont là, ils font leur match, ils prennent les 3 points, ils ont fait aucun faux pas, même pas un nul. Donc à ce rythme-là, je pense qu'ils vont battre tous les records. Je crois que le record, c'est la Roma qui le détient.
C'était 10 victoires consécutives.
C'était 10 victoires consécutives. Bon, on est d'accord que ça continue comme ça. Ils sont bien partis pour les battre.
Ouais.
Mais Ronaldo qui a aussi marqué, c'était important. Il vit pas une période facile. Donc visiblement, il est pas perturbé. Donc voilà, il a fait son match. Mandzukic, toujours aussi important. On en parlait la dernière fois. Ça reste une pièce maîtresse d'Allegri. Comme on disait, c'est compliqué de l'enlever. Je pense que t'es d'accord.
Ouais.
C'est un attaquant qui est vraiment dans tout. J'ai une image où il court après l'adversaire, récupère le ballon, t'as tous les frères de la Juve qui se lèvent, parce qu'ils étaient quand même beaucoup à Udine. Et c'est quelqu'un qui transcende. Et du coup, Mandzukic, c'est vraiment un pion essentiel à la Juve. Et c'était solide. L'Udinese, en première mi-temps, a pas proposé grand chose.
Assez décevante, l'équipe.
Ouais. Voilà, j'étais un peu déçu, je m'attendais à plus. On en parlait, on a beaucoup parlé dans le podcast. Bon, quand tu sais que tu joues la Juve, t'as deux solutions. Soit tu défends et t'espères un nul, mais bon, généralement le nul n'arrive pas, tu te fais punir. Ou soit tu oses. Ce qu'avait un peu fait Sassuolo là-bas d'ailleurs. Tu te rappelles, bon, ils n'avaient pas fait le match de l'année, mais ils n'avaient pas dénaturé leur jeu.
Ils avaient beaucoup moins subi que d'autres équipes qui vont au Juventus
Stadium. Exactement. Là, t'es d'accord que l'Udinese, bon, ils n'ont pas proposé grand-chose. Ils ont rapidement été menés 2-0. Il n'y a plus eu de suspense. Donc non, ouais, j'ai été assez déçu l'Udinese et pas surpris par la Juve qui continue son bonhomme de chemin tranquillement en Serie A.
On a vu, puisqu'on en avait parlé lors du dernier podcast, moi j'ai trouvé que le trio était en nette amélioration dans la recherche de combinaisons entre eux, d'appel contre appel, de jeux dans les petits espaces. J'ai trouvé que ça s'était un peu amélioré, que Dybala était d'ailleurs plus tranchant, plus juste aussi. Je vais pas dire que c'est son meilleur match, parce qu'il a quand même marqué un triplé en Ligue des Champions contre Berne il y a pas très très longtemps, mais pour moi c'est un de ses meilleurs matchs sur le début de saison.
D'accord.
Et surtout il y a aucun joueur du trio qui passe au travers sur ce match-là, alors que ce qu'on expliquait avant lors du précédent podcast, c'est que il y en avait souvent un qui était bon, deux moins bien, ou deux très bons et un pas bien du tout. Et là je trouve que les trois ont vraiment fait un très bon match. Et puis celui qui m'a le plus marqué, et on en parle aussi depuis le début de la saison, on en parle à la fois en bien et en un peu moins bien.
Je peux deviner ce que je peux deviner. On est d'accord qu'on se l'est pas dit avant.
Hein. On se l'est pas dit avant.
Moi, je pense que tu vas parler Cancelo.
Exactement. Cancelo, c'est toujours pareil. Ça fait partie des latéraux. Bon, c'est un nom un peu bâtard, mais on va dire moderne. C'est-à-dire que c'est cette nouvelle génération de latéraux qui participent beaucoup au jeu, qui attaquent beaucoup, qui créent des brèches dans les défenses adverses, qui sont très habiles techniquement. Mais par contre, ce qu'on lui a reproché, et bon, ça a eu lieu contre le Chievo et puis lors de je ne sais plus quel match en début de saison, c'est que il laissait, c'était la Lazio d'ailleurs, c'était les deux premiers matchs en fait de la saison, il laissait pas mal de possibilités à ses adversaires dans son dos. C'est-à-dire que en termes de placement et de lecture du jeu en phase défensive, il était quand même très perfectible, on va dire.
D'ailleurs, Aguirre l'a souligné. Hein,
ouais, exactement. Et il y a eu un débat notamment sur Sky Sport aussi après la rencontre où il y avait justement Del Piero, il y avait Dan, il y avait Paulo Condo, le journaliste, et puis il parlait un peu des latéraux, voilà, du moment, ceux qui étaient très forts, etc. Et tout le monde parlait de ce que devait avoir comme qualité un latéral aujourd'hui. Ils incitaient tous sur le secteur offensif. Mais c'est vrai que quand on écoute par exemple Allegri, lui, il incite aussi beaucoup sur la sécurité défensive qu'il doit apporter. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il l'avait pas trop. Là, ça s'est bien placé. Il a été très fort, surtout encore dans les phases d'attaque.
Incroyable.
Dégage une puissance, une vitesse d'exécution qui est assez impressionnante.
C'est une vraie plus-value. Hein. C'est une vraie plus-value pour l'attaque. Hein.
Et justement, sur Sky, il y avait un mini-débat où ils expliquaient que bon, l'Inter a peut-être fait une erreur en ne le conservant pas, dans le sens où, certes, c'était beaucoup d'argent. On rappelle que c'était 35 millions d'euros, l'option d'achat. La Juve finalement a payé 40, un peu plus. Mais ce qu'expliquait, c'était Paulo Condo qui disait ça. Il disait peut-être qu'ils auraient dû sacrifier un joueur quelque part dans les recrues pour pouvoir s'attacher les services de João Cancelo, parce qu'au final, est-ce qu'on, même si Versalco c'est un bon joueur, a priori, il est quand même aussi assez régulièrement blessé, ça depuis toujours.
C'est pas le même profil
et il apporte moins que ce que fait le latéral portugais. Donc voilà, il y a ce débat-là en disant est-ce que l'Inter a peut-être pas raté le coche parce qu'au final Versalco il arrivait pour combien, quasiment 20 millions d'euros je crois.
Ouais.
Entre 15 et 20, donc tu vois la différence elle est pas si importante que ça entre les deux en termes financiers, sachant que tu pouvais compenser sur un autre joueur que tu n'aurais pas fait ou voilà. Et c'est vrai que pour l'instant le début de saison de Cancelo, il est très bon dans les phases d'attaque et donc, mais en même temps, la difficulté pour lui, c'est que aujourd'hui la Juve a le ballon quasiment tout le temps. Donc forcément, il est très concentré sur les phases d'attaque et peut-être un peu moins, il le travaille sans doute moins. Alors peut-être pas l'entraînement, mais en phase de match, parce que le problème c'est que il se passe assez peu de choses pour les adversaires de la Juve. Et ce que tu disais là, par exemple l'Udinese, il n'a pas été mis en danger parce qu'ils n'ont rien tenté non plus.
Bah oui. Et comme tu dis, ils ont toujours le ballon. Donc lui, son but, c'est surtout de créer des espaces devant pour créer des occasions. Mais je pense que j'ai souvent vu, pour le coup, Cancelo est souvent salué, même sur Twitter ou ailleurs. Son début de saison est quand même très très impressionnant. Et je pense, honnêtement, on peut clairement dire que c'est un des meilleurs latéraux d'Europe. Oui. Que ça choquera personne.
Non.
Et c'est, moi, c'est surtout son profil que j'aime. Moi, j'aime les latéraux, et Dieu sait que sans perdition, c'est latéraux qui haute, qui joue la tête haute, qui n'ont pas peur de, on en parlera tout à l'heure, mais Lazzari à la SPAL, à échelle moins, évidemment. Et tu vois, c'est un peu le même profil. Genre, toujours attaquer, ne pas avoir peur de son vis-à-vis, créer des occasions. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, le latéral, il a toujours tendance à faire le minimum, à assurer ses arrières. Alors évidemment, Cancelo est perfectible, comme tu disais, en phase défensive. Mais offensivement, c'est quand même exceptionnel. Il participe quasiment à toutes les occasions. Quand il prend le ballon, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Il se fait toujours trouver par ses coéquipiers. Il y a toujours des combinaisons. Et honnêtement, Cancelo, c'est vraiment l'un des transferts. Bon, évidemment, tu as Ronaldo qui est devant. Mais c'est un transfert exceptionnel de la Juve. C'est une vraie plus-value en début de saison.
Ouais. Alors, un des transferts qui est en train de bien marcher, entre guillemets, c'est pas très français, c'est Steven Zonzi,
ouais.
Qui a eu des débuts un peu plus, on va pas dire compliqués, mais disons que sa perte de balle à Milan lui a causé pas mal de soucis, on va dire, et de confiance, mais ses premiers pas avaient été très intéressants, c'était contre Bergame de mémoire. Et puis là, il commence à revenir petit à petit. Alors c'est pas non plus anodin, c'est que la Roma s'installe dans 4-2-3-1. C'est que lui, il a trouvé son poste, c'est qu'il n'est pas relayeur dans un milieu à 3 où même si lui avait concédé dès le jour de son arrivée qu'il pouvait y évoluer, qu'il l'avait fait quelques fois à Séville, on sait tous que c'est pas ce type de joueur-là, parce qu'il a tout simplement pas le physique non plus pour le faire, pour beaucoup se projeter vers l'avant, etc. Et là, il s'est installé dans un 4-2-3-1 au côté, dans un double pivot, au côté de De Rossi. Il a marqué à Empoli. Très honnêtement, c'était un match très compliqué pour la Roma.
Ouais, moins bien.
Moins bien que les autres sorties précédentes. Après, Empoli, c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de suivre la Serie A ou qui ne regardent pas forcément les matchs d'Empoli, on peut les inviter à regarder un petit peu de plus près cette équipe, parce qu'à l'instar de Sassuolo, c'est une équipe qui a une vraie identité de jeu. C'est ce que reconnaissait d'ailleurs.
Ouais,
et c'est ce que reconnaissait Di Francesco en après-match. Il y a eu. Ils ont interrogé en fait Di Francesco sur la performance d'Empoli et il reconnaissait en disant moi ce que j'aime bien avec Empoli c'est que je me mets devant la télé, je regarde leur match, mais je sais que c'est eux, c'est que c'est identifiable,
ouais,
au premier coup d'œil.
Ils jouent bien, ils ont
exactement,
identité.
Ils jouent très bien pour une équipe, on le rappelle hein, c'est une équipe qui va lutter contre la relégation toute la saison, c'est une équipe promue. On a souvent l'habitude de pas souvent, disons, ouais, assez régulièrement quand même, de voir des équipes qui montent et qui bétonnent pas mal.
Bah, comme Udinese contre la Juve.
Exactement. Alors oui, ils sont pas promus, mais bon.
Oui, certes, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais. On a trop l'habitude, les équipes se sont inférieures. Bon, ce qui peut être possible sur le papier, mais tu peux aussi oser.
Exactement.
Tu peux aussi essayer, parce que si t'es là pour bétonner tout le match, tu sais qu'à un moment ou à un autre, généralement, ça craque. Au moins, Empoli font leur match, même contre Milan, ils avaient joué, c'était pas si mauvais que ça.
Et donc, pour en revenir à Nzonzi, c'est lui qui marque, il a fait un très bon match. Ce qui est intéressant de voir avec cette équipe de la Roma, c'est que c'est celle qui marque le plus. Ils sont grands.
Ils sont
grands, exactement. Donc du coup, c'est celle qui marque le plus de buts sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison en Italie. Quand on pense à Fatio, à Nzonzi, Dzeko, on parle aussi Manolas, de Davide Santon qui est loin d'être petit. On a aussi Robin Olsen dans les buts. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui dépassent le 1m90 ou qui s'en approchent. Et c'est vrai que c'était une des requêtes entre guillemets de Di Francesco cette saison. Et c'est ce qu'a aussi apporté Monchi au niveau du mercato à ce niveau-là. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que Nzonzi, c'est le 11e joueur différent à marquer cette saison pour la Roma en Serie A. Et il y a que le Borussia Dortmund qui fait plus, entre guillemets, ou qui a plus de joueurs qui ont marqué cette saison en Bundesliga. Donc voilà, il y a Dzeko
a marqué,
mais rate encore. Il n'est pas encore sur ses performances de la saison dernière et de la saison d'avant, mais il y a du mieux et ils réussissent à compenser aujourd'hui avec d'autres joueurs. Alors on est encore loin du football hyper léché et totalement maîtrisé. C'est surtout ça, je pense, qu'il manque, c'est un peu de maîtrise. Et on en parlera avec la SPAL tout à l'heure, mais Empoli, c'est un peu le même constat, c'est qu'aujourd'hui, quand t'affrontes la Roma, et même chose pour la SPAL qui affrontait l'Inter, quand t'as un penalty qui peut te permettre soit d'égaliser, soit de prendre l'avantage, t'as pas le droit de le rater. Enfin, t'as pas le droit. Tu peux le rater, mais c'est compliqué de rater une telle occasion face à un gros.
Non, mais il y a raté, surtout.
Ouais.
C'est...
Là, les deux l'ont vraiment bien raté.
Ah, c'est exceptionnel. Enfin, moi, c'est, bon, après, voilà, c'est toujours, voilà. Pour moi, quand j'entends que les pénalités sur la loterie, j'ai toujours du mal parce que on sait que c'est un concours, voilà, de, c'est mental, c'est comment tu te prépares à ce pénalty. Moi, j'ai toujours du mal. Le rater, c'est une chose. Je garde un peu de mon côté. Enfin, ben, l'arrêt, bon. J'ai toujours du mal avec le fait de le tirer au-dessus, enfin, le tirer à côté. À ce niveau-là, pour moi, tu dois au moins cadrer, quoi.
Ouais.
Après, bon, alors la pression, certes, mais bon, c'est des joueurs quand même qui sont expérimentés. Moi, bon, Empoli, comme tu dis, hein, 1-0, ils égalisent, ça change tout le match.
Et surtout, ils étaient dans une période très forte, où ils auraient mérité, pas mal de situations. Et même chose pour la Spal, on peut basculer d'ailleurs sur ce match-là.
Ouais.
Pareil, hein, c'est le penalty, il a 1-0 aussi, hein, pour l'Inter de mémoire.
Encore mieux qu'Empoli contre la Roma, parce que eux, alors pour revenir sur ce match, ils ont quand même fait un très bon match, la Spal. L'Inter a été complètement dépassé quasiment tout le match, mais voilà, encore au caractère, Icardi qui marque deux buts. Donc, on te rappelle, on parlait de lui sur le podcast des buteurs.
Oui.
Bon, bah là, je pense que voilà, lui aussi, il s'est débloqué. Il accélère juste avant le derby contre Milan dans deux semaines, pardon. Et oui, c'est la Spal qui a fait un super match. Ils auraient mérité clairement le premier match nul minimum. Et ils le tenaient jusqu'à la 82, 83e de mémoire. Et ouais, l'Inter, ils se sont complètement dépassés, même physiquement. Ils étaient à la rue sur tous les duels. Ils ont été pris de vitesse partout. On peut dire que Lazzari a fait un match exceptionnel, pour le coup, il est très très bon.
On y reviendra tout à l'heure, hein. Il était appelé au mois de septembre, il n'est pas appelé au mois d'octobre, ce qui est quand même étonnant.
Ouais. On en avait déjà parlé, tu te rappelles, en tout début de saison, où moi j'avais souligné, pour le coup, que c'était vraiment un très bon joueur, que j'avais déjà repéré la saison dernière, pardon. Et bah voilà, c'est un latéral qui haut, c'est un latéral qui a pas peur, et il a, pour le coup, pour être un peu grossier, là, il a mis le bouillon à tout le monde. C'était impressionnant, il a fait, je pense, l'un des meilleurs matchs au de la Spal, et c'est dommage parce que la Spal aurait mérité un point. Ils ont fait l'appréciation pour. Ils auraient même mérité, bon, gagner peut-être pas, mais au moins le point du match nul. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde l'a reconnu, que ce soit les supporters de l'Inter ou même Spalletti après le match. Ils s'en sortent bien.
Ils s'en sortent bien, mais c'est comme une habitude aussi. Alors, il n'y a pas de hasard non plus, tu vois. Quand tu penses au match contre Tottenham, quand tu penses au match là contre la Spal,
au caractère,
ils marquent souvent des buts dans les dernières minutes, hein. Donc
et surtout, ils cèdent pas dans les mauvais moments. Ça, c'est important. Ils ont pris un but là avant. Il y a le centre un peu contré. En dernier but, il sort pas forcément. Mais bon, ils prennent le but, ils sont pas abattus, ils se remettent au charbon, et là, ils ont recommencé à jouer. Et contre Tottenham, ils auraient très bien pu dire, bon, voilà, on a pris un but. On se rappelle qu'ils ont quasiment pris la rupture, tu te rappelles, sur le 1-0. Les deux, trois occasions pour Tottenham, c'était limite. Mais bon, caractère, mentalité, on le disait aussi, hein, que la mentalité commence à arriver à l'Inter. C'est un groupe, c'est un collectif. On sent que c'est en train de, voilà, la mayonnaise prend, même avec Spalletti, quand ça a trouvé ses hommes. Ah, le seul bémol peut-être, c'est les nouveaux arrivants. Bon, Lautaro, on l'a pas beaucoup vu. Keita Baldé a pas été très très bon.
Et Keita Baldé n'est pas bon depuis le début de la,
ouais,
de la saison.
Bah, il a quasiment pas fait un bon match. Hein. Il a pas fait un bon match.
Reprendre cette histoire de mental que tu évoquais, quand tu prends les derniers matchs de l'Inter, donc tu as Tottenham où le match se gagne dans les arrêts de jeu. Tu as le match sur la pelouse de la Samp avec un but à la 94e minute.
Oui, c'est
contre...
vrai.
Et oui, un match où il y a eu trois buts annulés. Contre la Fiorentina, il y a un but, le but de la victoire dans le dernier quart d'heure. Contre Cagliari, le but du 2-0, il est à la 89e minute de mémoire. Et ensuite, tu as contre le PSV, c'était pas le cas. Et contre la Spal, donc, tu as un but encore dans le dernier quart d'heure par Icardi. Donc,
Et contre le PSV, ils sont menés en plus, hein.
Exactement. Donc à défaut d'avoir un jeu très séduisant, même si on avait noté quelques progrès dernièrement, on les a pas forcément retrouvés ce week-end. Mais il y a au moins un mental de à toute épreuve entre guillemets. C'est-à-dire que là aujourd'hui, s'ils restent quand même sur 6 victoires consécutives, ce qui n'est quand même pas rien, avec des déplacements notamment sur la pelouse de la Samp, un match contre la Fiorentina, un match contre Tottenham.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça commence à devenir.
Même à la Spal, c'était piège. Hein. C'était
alors
piège,
par
hein.
contre, là, ils ont une série qui va un peu tout déterminer, c'est qu'il y a le derby, donc le 21 octobre. Ensuite, trois jours après, il joue sur la pelouse du Barça.
Alors, l'enchaînement est sympa.
Il n'est pas fini, parce qu'après, ils vont sur la pelouse de la Lazio. Ensuite, ils reçoivent le Genoa, et ensuite, ils reçoivent à nouveau le Barça en Ligue des Champions.
Ah oui, d'accord. Ah d'accord,
donc,
oui.
Et il faut savoir qu'entre... enfin, ils ont des enchaînements là quand même. Après, il y a un peu de répit, entre guillemets, même si le déplacement à Bergame, il est jamais simple. Ensuite, ils reçoivent Frosinone, ils se déplacent à Tottenham, sur la pelouse de la Roma, sur la pelouse de la Juve. consécutivement.
D'accord. Bon, donc, tu viens de plomber le moral de tous les supporters de l'Inter.
Donc voilà, donc sur les, en gros, ça doit faire sur les 9 prochains matchs, il y a quand même du très
Milan,
très lourd.
Barça, Lazio.
Il y a deux fois le Barça, le Milan, la Lazio, la Roma, la Juve, Tottenham.
Après, ils ont 6 points en Ligue des Champions, alors est-ce que, de toute façon, dans le derby, il fera pas tourner, c'est évident.
Ah non, impossible.
Le derby est dimanche soir. Du coup, le Barça, c'est mercredi, je présume. Mercredi soir. Donc,
après, ils ont de la chance, c'est que le match de la Lazio est le lundi soir après.
Ah,
donc ils ont un peu plus de temps pour récupérer.
Ouais, ils auront le temps. Par contre, entre le derby et le Barça, t'as 3 jours.
Oui. Avec le déplacement à gérer.
Et le, ouais, j'allais te le dire, le temps de partir là-bas. D'accord, ok. Bon, bah, non, mais ça va être un élément à prendre en compte, hein, parce que l'Inter aussi recruté pour avoir un banc. C'est important. Spalletti voulait doubler les postes. Le problème, c'est ce que je te disais. Il faut que les remplaçants apportent plus. Parce que Keita, pour le moment, on l'a pas vu. Lautaro, bon, il a marqué, je crois que c'était contre Cagliari, il me semble. Bon, on l'a pas encore vu beaucoup de fois, donc ce sera intéressant. Je pense que c'est temps qu'il s'acclimate aussi à la Serie A. Voilà, on sait qu'il vient d'Argentine, donc ce sera intéressant de le voir après. Mais c'est aussi important que les remplaçants apportent plus. Et là, ils ont quelques blessés, parce que Brozovic est blessé, Dombrosio est blessé.
Oui, alors après, est-ce que c'est pas les fameuses blessures diplomatiques avant le derby, comme par hasard?
Après, Brozovic n'a pas joué contre l'Espagne.
Oui, Dombrosio non plus, je crois d'ailleurs.
Dombrosio non plus, donc, bon, à la limite. Après, regarde, ça fait quand même avec Milan. Milan, c'est pareil. Romagnoli,
Cutrone.
Cutrone, ils sont rentrés. Bon, et quand il y a le derby, t'as 2 semaines à ruminer. Bon, on va dire que tu prends pas de risque. Prends pas de risque inutile.
Exactement. Alors ensuite, on va parler du Milan, justement, puisque tu évoquais Romagnoli et Cutrone. Et, victoire contre le Chievo, 3-1. Le Chievo est au plus mal. Doublé d'Higuain, 3 passes décisives de Suso. Alors bon, dans la fameuse comptabilité des passes décisives, il faut quand même noter que bon, la dernière, elle est quand même bon. On va dire que c'est la dernière passe avant un tir, hein, parce qu'elle a pas grand-chose de décisif, puisque c'est une accélération de Suso et un tir dévié en plus. Mais quand même, une bonne rencontre de Suso et un doublé d'Higuain qui confirme être l'atout numéro 1 du Milan pour faire une bonne saison.
Après, combien de fois on a parlé d'Higuain dans ce podcast? Higuain, c'est un joueur exceptionnel. Je pense que les supporters du Milan s'en rendent compte. La chance qu'ils ont d'avoir un attaquant pareil. Tout le monde est unanime pour dire que ça faisait bien des années que Milan n'avait pas eu un attaquant pareil. Je pense que le dernier vrai neuf, et encore c'est pas un vrai neuf, c'est Ibra.
Ouais.
Est-ce qu'on peut le considérer un neuf? Je sais pas trop, mais on peut dire que Higuain, c'est du calibre des Sheva, des
Inzaghi.
Voilà, des Inzaghi, c'est vraiment. Enfin, il vient, contre la Juve, il n'a pas été mauvais, hein. Ces deux années, elles sont pas moches.
Ah, loin là,
Avec Naples, il marque sa fameuse saison à 36 buts. Donc, il faut vraiment se rendre compte que Milan a pris un joueur comme ça, alors qu'ils sont même pas en Ligue des Champions. C'est quand même un gros coup. D'ailleurs, bon, bah voilà, hein. C'est son meilleur début de saison en Serie A depuis qu'il est arrivé en Italie. On peut le souligner. Et comme tu disais, la connexion avec Suso. Donc les deux se trouvent bien, ils apprennent à se connaître. Voilà, 2 passes décisives, notamment la deuxième est magnifique. Avec un Suso qui jouait plus dans, l'axe. Et bah, tu vois, attends, on se comprend tellement. Il était dans l'axe, mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas vu assez de mouvement. Je pense vraiment, et tu te rappelles, on en a parlé, je pense vraiment qu'il a besoin de quelqu'un derrière lui, Higuain. Il a besoin d'un joueur qui lui dise qu'il dépasse, et la passe qu'il aime, c'est cette passe de Suso en profondeur. Voilà, lui, il raffole du genre de passe. Et le problème, c'est que si tu ne mets pas un joueur derrière lui, d'ailleurs, Çalhanoğlu n'a pas été bon, parce que pour moi, il ne joue pas à son poste. Tu te rappelles, en Europa League, Çalhanoğlu, il fait 2 passes décisives, une fois à droite, une fois en trequartiste, en numéro 10. Et Gattuso a pas voulu confirmer ça contre le Chievo. La victoire a été nette et sans bavure.
Avec une petite. Il y a quand même un but encaissé.
Ouais, puis un but ridicule avec une perte de balle de caissier qui fait n'importe quoi, qui a pas été très bon d'ailleurs. Et là, voilà, si on peut donner un bémol à Milan, c'est le fait qu'ils prennent au minimum un but par match. Et depuis à peu près, je crois, 12-13 matchs d'affilée. Alors oui.
Il y a du Blanche.
Oui, ouais, voilà. Je savais que tu me rappelles à Dudelange, mais soyons sérieux, voilà, Dudelange, ils sont gentils, j'ai rien contre eux, mais voilà, c'est normal que Milan prenne pas un but face à Dudelange, Dieu merci. Là, bon, chaque match, ils prennent un but sur une erreur, voilà, tu te rappelles, à Empoli, c'est Romagnoli qui fait l'erreur.
Oui.
Là, c'est caissier, c'est des erreurs individuelles. Et ça, Gattuso le sait, et il sait que, voilà, une fois que Milan mène au score, ils ont mené beaucoup de faux scores cette année, ils ont cette tendance à se relâcher, et à prendre ce petit but qui, à chaque fois, te met dans l'embarras, parce que là, tu gagnes 3-0, donc ça va. Mais des fois, quand tu gagnes 2-0, et ben voilà, tu te fais reprendre 2-1, puis après, Milan, c'est la panique, ils savent plus comment gérer. Et c'est vraiment ça que doit apprendre à gérer Gattuso et Milan, surtout dans deux semaines, il y a le derby, et je pense que le derby va nous dire beaucoup de choses sur l'évolution du Milan ces derniers matchs, qu'ils ont gagné 3 matchs de suite.
Donc, tu penses que c'est important. Le genre de match où tu peux voir beaucoup d'évolution? J'ai l'impression que c'est plutôt le genre de match où ça joue vraiment sur le caractère, sur la détermination, sur comment t'as préparé le match.
Tu sais bien qu'un derby, ça, c'est unique.
Ouais, donc, plus que tu vois sur le jeu et sur les connexions, etc.
Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu perds contre l'Inter, t'es déjà derrière eux. Bon, t'as un match en main, mais t'es déjà derrière eux. Si en plus, tu perds contre eux, tu vas déjà leur courir après. Mmh. On n'est même pas à la mission, donc c'est compliqué. Par contre, bon, tu fais un nul ou tu gagnes. Là, je pense vraiment que ça peut te confirmer. Ça fait à peu près, je pense, 5-6 ans qu'à Milan, on parle de déclic. Un match déclic qui te fait que là, tu prends conscience que ça y est, on est parti. Et d'ailleurs, à chaque fois, les joueurs en rigolent parce que quand tu interroges Romagnoli ou des joueurs sur ça, ce fameux déclic, ils lui disent, mais à chaque année, vous nous le dites. Là, tu gagnes contre l'Inter, et l'Inter qui vient de combien de matchs de suite? 6 victoires de suite.
6 victoires, oui.
Voilà, tu gagnes contre eux, ça peut te dire que cette année, tu peux jouer avec des champions. Pour le moment, tu as gagné contre la Roma, mais la Roma n'était pas en grande forme. Tu as fait des matchs nuls contre Empoli, contre Cagliari. Bon, c'est pas des bons résultats. Après, ils ont une défaite. Ils ont eu juste une défaite. C'était contre Naples en début de saison. Donc, le bilan n'est pas mauvais. Après, voilà, Gattuso, moi, j'attends encore un peu parce que les joueurs l'aiment bien, tout le monde l'aime bien. Moi, j'aimerais bien vraiment qu'il varie quelque chose devant parce que je pense que voilà, le trio Çalhanoğlu, Bonaventura et Souza, moi, m'intrigue beaucoup.
Mais pas forcément dans ces positions-là, quoi.
Voilà, le problème, c'est que si tu bloques la connexion Souza et Higuain, tu passes par qui? C'est ça le problème, c'est que Çalhanoğlu, encore une fois, il est en dehors du cœur du jeu dimanche. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un bon joueur. Comme tu dis, à Leverkusen, tu te rappelles comment il jouait? Il jouait pas cantonné sur le couloir gauche. C'est pas son poste.
Non, bah, il était numéro 10 dans un 4-2-3-1, à Leverkusen.
Et voilà, c'est un gâchis. L'exemple parfait, c'est contre Olympiakos. Il fait 2 passes décisives, une à droite, une en numéro 10. Et là, bah, dimanche, il a pas été bon parce qu'il était cantonné à son couloir gauche. Donc c'est dommage, mais, on verra bien si pendant la trêve, Gattuso va bosser sur quelque chose, peut-être, qui pourrait changer contre dans le derby, pardon.
Alors, un joueur qui a déserté son côté gauche, transition, cette année, c'est Lorenzo Insigne. Qui joue dans une position axiale au Napoli. C'est d'ailleurs la grande trouvaille, on peut l'appeler comme ça, d'Ancelotti depuis le début de la saison.
Ouais.
Alors tu parleras toi d'Ancelotti plus précisément dans les faits marquants entre guillemets juste après, mais là sur ce match, victoire contre Sassuolo 2-0, ce qu'il faut noter quand même, c'est l'énorme turnover fait par Carlo Ancelotti, un truc qu'on n'avait pas vu à Naples depuis très longtemps, puisque
pas l'habitude.
Voilà, un des très grands reproches que les supporters
et le président,
surtout le président, voilà, faisait à Maurizio Sarri, c'est que il avait acheté plein de joueurs pour avoir un banc compétitif et Sarri ne les utilisait jamais et alignait grosso modo quasiment tout le temps le même 11 et s'appuyait globalement sur 14 joueurs maximum. Là, c'est pas le cas. Ancelotti fait beaucoup tourner depuis le début de la saison. C'était encore le cas. Plus surprenant, deux Zerbi du côté de Sassuolo avaient aussi fait tourner.
Ouais.
Là, c'est un peu curieux, ils ont qu'un match par semaine. Et il s'est privé quand même de Berardi et de Federico Di Francesco. Berardi, on a vu que quand il était entré, ça quand même changeait les choses d'un point de vue offensif. Voilà, donc il n'y a pas énormément d'enseignement à retenir de ce match-là. Le principal enseignement, c'est qu'Ancelotti essaie de concerner tout son effectif et que pour le moment, les joueurs, à chaque fois qu'ils sont alignés, répondent présents.
Ouais, c'est comme tu dis, c'est ce qu'on reprochait un peu à Sarri, ce que le président lui reprochait, c'était pas faire tourner. Et là, je regardais hier sur la Gazzetta le nombre de minutes par joueur, et c'est quasiment tous doublés. Sur Maximovic, il y a d'autres joueurs qui
voyaient pas. Il y a eu Rogue,
Diawara,
Diawara, Rogue. On a eu aussi, on a même eu Luperto qui a un peu joué.
Ouais, là t'as Verdi qui est arrivé,
Malcui,
Ounas
aussi.
Et tu vois, il fait un turnover et ça marche, c'est sans conséquence. L'année dernière, enfin ça arrive, il est quasiment jamais tourné. Et d'ailleurs, les joueurs sont arrivés complètement cramés en fin de saison, c'était évident. Quand tu fais jouer toujours les mêmes, c'est le problème d'arriver en fin de saison et t'as plus les jambes. Et là, Ancelotti, il sait convaincre tout son groupe, tout le groupe, voilà, se sent concerné hein, c'est le mot que je cherchais, concerné par cette saison. Et d'ailleurs, j'ai compris, Maximovic est très bon quand il joue.
Oui.
On retrouve le Maximovic du Torino, c'est important parce que c'est vrai que c'était un bon joueur au Toro, tu te rappelles. Après, il est arrivé à Naples, il n'avait pas beaucoup joué, et cette année, il est très très bon. Et c'est important pour la défense parce que en début de saison, c'est vrai que c'était aussi compliqué. Koulibaly n'était pas forcément bon. Et là, avec Maximovic, c'est très très solide. Et je crois que, de ce que j'ai lu aujourd'hui, Ancelotti a pas mis le même 11 durant tous les premiers matchs de série. Enfin, tous les matchs de série.
Il a à chaque fois changé au moins un élément.
Il a à chaque fois changé. C'est dire que tout l'effectif est plutôt, voilà, c'est convenable. Il n'y a pas de mauvais joueurs en soi. Et surtout, il conserve tout le monde. Et ça, c'est hyper important quand tu as autant de compétitions à jouer, la Ligue des Champions, la Serie A.
Et ça, tu peux le faire. Je vais émettre un bémol, entre guillemets, c'est que tu peux le faire quand tu n'as pas d'immense star dans ton effectif. Par exemple, Ancelotti, c'est un truc qui faisait pas mal au Bayern. Et ça chagrinait pas mal de joueurs, notamment les sénateurs, etc., qui acceptaient pas trop de se retrouver sur le banc parce qu'ils en avaient pas l'habitude.
Je crois que c'est pour le PSG qu'il sort Robben ou Ribéry.
Exactement, mais tout au long de cette première partie de saison, il avait fait ça, il avait beaucoup fait tourner, etc. Et bon, petit aparté, mais c'est aussi ce que fait Niko Kovac actuellement au Bayern, et c'est aussi pour ça que ça clash un peu avec certains joueurs, c'est que des joueurs comme Lewandowski, comme Robben, comme Thiago Alcantara, comme James Rodriguez, etc., ils veulent jouer tout le temps et c'est difficile. Là, à Naples, tu peux le faire parce qu'il n'y a pas, on va dire, d'énormes tauliers ou d'énormes égaux, même si Insigne et Hamzik, par exemple, sont les deux tauliers de l'équipe, entre guillemets, c'est pas des égaux démesurés qui vont t'empêcher de pouvoir faire tes choix tranquillement, etc. Ouais. Et ça, c'est vrai que là, il peut se le permettre à Naples, et c'est une bonne chose parce que...
Mais c'est surtout devant qu'il fait tourner. Hein.
Ouais, mais au milieu aussi, tu vois, un joueur comme Rogue, je sais pas combien de matchs il a joué avec Sarri, tu vois,
l'année dernière devant, c'est tourné quasiment pas, l'année dernière devant. C'est toujours pareil, là, Ounas, Verdi, il y a des solutions, et c'est important parce que bon, si tu mets toujours Milik, Mertens, là, forcément, t'en as un sur le banc. Avec ce schéma-là, donc il se met même une très bonne réserve sur le banc, un très bon joker. Donc c'est important pour la suite de la saison et surtout ils ont quasiment pas perdu de points en route. Là, ils ont perdu 3 contre la Samp, 3 contre la Juve.
Avec un calendrier quand même qui était pas simple.
En plus parce qu'ils battent Milan, ils battent la Lazio et deux premiers matchs.
Ils ont joué la Juve aussi.
Ils ont joué la Juve. Donc
ils ont joué à la Fiorentina, ils ont été sur la pousse de la Samp, donc le calendrier était loin d'être simple. Sur la pousse du Torino aussi. Donc attention, hein, là ils ont déjà fait pas mal de rencontres difficiles. Et tu vois là après le prochain match c'est sur la pousse de l'Udinese. Et ensuite ils vont sur la pousse du PSG, ils reçoivent la Roma. Mais derrière, une fois que la Roma sera passée en championnat, il restera pas beaucoup de matchs compliqués. Il leur restera tous les Frosinone, Spal, Bologne, Chievo, Genoa, toutes ces rencontres-là à jouer.
Ouais, c'est vrai. T'as raison.
Empoli, etc. Alors, on va donc passer maintenant à nos quatre choses marquantes chacun. On va essayer de faire assez bref sur toutes les choses, même si on sait que c'est pas notre fort, forcément.
non, on va aller vite.
On était sur la thématique Napoli, donc autant continuer un peu sur... on l'a déjà un peu évoqué, mais un de tes points, c'est qu'Ancelotti a déjà posé sa patte au Napoli.
Oui, parce que, alors, je vais l'avouer, je m'en veux terriblement, mais j'ai douté d'Ancelotti. L'espace d'un temps, j'ai douté, je m'en veux, parce que j'aurais pas dû, mais j'ai douté parce que je me suis dit, est-ce qu'il est toujours... Enfin, je veux pas dire est-ce qu'il est cramé, parce que ce serait un manque de respect, je veux pas manquer de respect à un entraîneur pareil. Je me suis demandé, est-ce qu'il est pas un peu dépassé, tu vois? Et là, c'est sur un échec au Bayern.
C'est l'échec au Bayern qui t'a fait penser ça, justement?
En partie. Et surtout, je me suis dit, ça faisait quasiment combien de temps qu'il avait entraîné? Parce que Naples, lui, il a été en train du Bayern, du Real, de Chelsea, du Grand Milan. Il a toujours eu des très, très bonnes équipes avec des stars immenses. Là, à Naples, on est d'accord qu'il n'a pas non plus. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Il n'a pas eu les stars qu'il en a eu avant. Donc, j'ai eu vraiment un doute. Évidemment que l'échec au Bayern m'a un peu influé, mais je sais pas, j'avais vraiment ce sentiment, et je l'avoue, je pourrais dire oui, Ancelotti est toujours cru, non. J'avoue que j'ai eu quelques doutes. Je me suis pas dit c'est fini pour le Napoli, mais d'ailleurs, la Gazzetta avait fait pareil, hein. Ils avaient marqué d'ailleurs, les sportifs de Napoli le sortent tout le temps. Mirko d'ailleurs, qu'on salue, avait ressorti ce tweet avec ce screen de la Gazzetta qui disait, oui, on avait signé de Napoli, ça va être compliqué. Bon, bah, finalement, il a eu le don de faire fermer notre bouche.
Voilà.
Voilà.
Et en, donc, en principale évolution du Napoli par rapport à Sarri, c'est donc Insigne qui joue dans une position axiale, soit derrière ouais. l'attaquant, soit aux côtés de l'attaquant.
Mais enfin, qui aurait fait ça, franchement? Pas grand monde. Non. Pas grand monde. Et en plus, il rend service à Naples et pour l'Italie. Ça peut aussi, ça peut être aussi une idée pour la nationale. Ce serait important. Et Insigne en numéro 9. Enfin, voilà, comme tu dis, il bouge beaucoup, mais c'est une vraie trouvaille. Et ça ressemble beaucoup à la trouvaille de Sarri avec Mertens.
Exactement.
Qui était un peu forcé, parce que Milik s'était blessé, donc pour le coup, Sarri ne porte pas gloire de ça, parce qu'il lui dit tout le temps, bon, bah là, Mertens, j'ai mis parce que Milik était blessé. Pour le coup, Insigne, c'est vraiment une trouvaille. Enfin, il l'a mis là, et, mais ça marche du feu de Dieu. C'est, avant, voilà, on se rappelle Insigne, c'était stéréotypé, c'était gauche, j'enroule. Là, il bouge, il est dans le cœur du jeu. Contre Liverpool, c'est encore lui qui marque. Un vrai but de numéro 9. Il est là, voilà, il est dans la surface, il tacle. Enfin, c'est un but de numéro 9. Et ça, pour le coup, c'est Ancelotti. On le doit à Ancelotti contre Liverpool. C'est un chef-d'œuvre qu'il fait Ancelotti contre. Mm-hmm. Certes, c'est un match de groupe, voilà, faut pas s'emballer d'accord, mais Liverpool n'a pas vu le jour. Ils ont pas fait une frappe. Il a complètement annulé le trio Mané, Firmino, Salah. Maximovic à droite. C'était quand même avant le match. Moi, je veux bien savoir qui m'aurait dit qu'il aurait mis Maximovic à droite. Et ben lui, il l'a mis. Ça a marché. Donc Ancelotti, comme tu dis, on a le turnover. Pareil, Sarri n'en faisait jamais. Ancelotti en fait souvent. Il change toujours d'équipe et ça marche. Donc honnêtement, Ancelotti, il fait un travail exceptionnel à Naples. Ça a mis un peu de temps. Il y a eu, ouais, il y a eu le faux pas contre la Samp, mais il faut qu'on salue son travail. Et voilà, je lui demande pardon pour avoir douté l'espace de quelques heures et quelques jours de lui, du grand Carlo.
Alors moi de mon côté, je souhaitais mettre en avant un autre entraîneur, De Zerbi, l'entraîneur de Sassuolo, qui fait un début de saison remarquable et qui tord le cou à l'idée de pour qu'un entraîneur, pour qu'on voit la patte d'un entraîneur sur une équipe, etc. Il faut du temps parce que on peut pas digérer et ingérer tous les préceptes d'un entraîneur facilement, etc., etc. Et bah lui, il prouve que c'est tout le contraire, parce que si on se souvient, alors certes, il y a eu beaucoup de mouvements aussi cet été au niveau du mercato, mais si on se souvient de l'équipe de Sassuolo avec Iacchini la saison dernière où c'était horrible, il se passait pas grand-chose, voilà, techniquement c'était affreux, c'était juste une équipe qui défendait très bien et voilà. Là, c'est vraiment tout le contraire. C'est une équipe vraiment assez divertissante et rafraîchissante. On sait que il le faisait déjà l'année dernière à Benevent, au ressortir le ballon proprement derrière. Alors il le fait, et c'est ça qui est remarquable, je trouve, c'est que quand tu le fais à la Juve et à la Roma, au Napoli, c'est normal de, enfin c'est normal. On va dire qu'il a les joueurs pour le faire. Là, quand il le fait au Sassuolo, c'est-à-dire que déjà il faut arriver à convaincre certains joueurs, peut-être labellisés entre guillemets comme moyens et pas forcément hyper techniques, qu'on va faire comme ça quand même et qu'ils en sont capables en plus. Donc c'est de l'auto-persuasion. Et puis réussir à transmettre ça à ses joueurs, c'est une force de conviction importante. Et donc on voit, les sorties de balles de derrière, une verticalisation très importante à partir du milieu de terrain. Dès qu'ils arrivent à toucher les milieux de terrain, les milieux de terrain sont pas du genre à remettre le ballon derrière ou à forcément toucher les latéraux. C'est, ils vont chercher les ailiers qui prennent la profondeur très rapidement. Ils vont chercher Boateng qui joue en déviation ou en remise. Enfin voilà, c'est vraiment une équipe très intéressante de transition, mais capable aussi de garder le ballon et de faire de belles séquences de possession. Vraiment, c'est une équipe très séduisante. Et il faut quand même rappeler aussi qu'ils ont eu un calendrier loin d'être facile, qu'aujourd'hui ils se retrouvent avec 13 points en 8 journées. Bon, le classement 8e, c'est un peu anecdotique, par contre, ce qui compte, c'est vraiment les 13 points en 8 journées. Le contenu aussi. Et quand on regarde quand même le calendrier de Sassuolo, ils ont joué quand même l'Inter, le Milan, la Juve et Naples déjà. En 8 journées, ils ont joué quand même 4 favoris pour les 4 premières places du classement. Donc, avoir 13 points dans ces conditions-là, c'est vraiment remarquable. Et en plus, avec un jeu qui est très attractif et donc pour les... à la fois pour les passionnés de Serie A et même ceux qui vont découvrir la Serie A ou qui suivent un peu de loin, vraiment mettez-vous devant des matchs de l'équipe de
Zerbi. C'est pas un championnat minimaliste.
Alors figure-toi que on a entendu ça un jour et que on se plaît chaque fois à souligner que ce n'est pas le cas. Si on prend par exemple, on parlait de la Spal tout à l'heure, d'Empoli tout à l'heure, de Sassuolo.
C'est non, merci, ouais, vous pouvez savoir, merci.
C'est des équipes qui ne visent pas l'Europe, c'est des équipes qui ne visent pas voilà les premières places.
Mais c'est pas des longs ballons devant.
Non, exactement, c'est pas des longs ballons devant. Okay. Et c'est vraiment des équipes qui proposent autre chose. Je sens ton sarcasme.
Non, mais
de très très loin. mais c'est vrai que c'est dans les choses marquantes. Voilà, j'ai souligné, beaucoup de choses avec Sassuolo, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut aussi attribué à d'autres entraîneurs comme Andrea Zoli à Empoli, ou aussi à la Spal, justement, c'est vraiment des équipes qui essayent d'obtenir des résultats par le jeu. Et ça, c'est vraiment appréciable. Est-ce qu'ils y arriveront? Pour l'instant, ça marche pas trop mal pour la Spal et Sassuolo, un peu moins pour Empoli, mais ils sont loin d'être décrochés et on espère vraiment, en ayant un œil neutre, etc., on préfère que des équipes de ce genre-là se sauvent plutôt que d'autres qui bétonnent tout au long de la saison.
Puis la Serie A va bien, se porte bien. Au classement UEFA, on n'est pas trop mal.
Ouais, il paraît, ouais.
Je croyais qu'on devait, que la Ligue 1 devait nous passer devant. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit.
Oui, bien sûr. Je te propose ensuite de passer à notre ami Christophe Piontek. Puisqu'on prononce comme ça.
Oui.
On nous avait fait la remarque, d'ailleurs, je crois que c'est une personne de Genoa France.
Oui, c'est vrai, c'est Piontek.
Piontek, l'attaquant qui vient de nulle part et qui a mis toute la Serie A à ses pieds.
Incroyable, parce que il enchaîne. Enfin, c'est pas, bon, un effet de mode, c'est 3-4 matchs. Là, il enchaîne, il marque tout le temps. C'est impressionnant, honnêtement, c'est quelque chose d'exceptionnel. On n'avait jamais vu ça en Serie A. C'est historique. C'est exceptionnel. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire d'un joueur?
Moi, il a un jeu de tête, je trouve, assez impressionnant. Je l'ai encore vu contre Parme, là, lors de la première mi-temps. Il a plusieurs occasions de la tête.
Mais même ses frappes, hein.
Oui, même ses frappes. Il est assez complet, en fait, comme joueur. Il frappe de loin. Il est dans la surface bien présent, à la réception des centres.
Physiquement, c'est très, très solide.
Donc c'est vraiment un joueur très intéressant. Et on vous invite à lire un portrait qu'a fait le site Footballski, qui est le site de référence sur
très bon portrait.
On va dire les championnats des pays de l'Est, pour appeler ça grossièrement entre guillemets. Mais moi c'est un site que j'adore, fait par des passionnés, on le sent tout de suite, qui sont capables de faire des portraits de joueurs pas très connus comme ça, ou en même temps de. Moi, j'ai une rubrique que j'adore sur un peu vintage, leur rubrique rétro qui parle des championnats des républiques socialistes soviétiques, RSS, qui parlent de, qui sont capables de parler de l'ex-Yougoslavie également. Enfin, vraiment, allez consulter ce site-là. Donc, c'est footballskip.fr de mémoire, qui nous a sorti un très beau portrait de Piontek, qui écrase la Serie A au classement débuteur. Il y a déjà 9 buts quand même en 7 journées, puisqu'ils ont un match de moins.
Ouais. Est-ce qu'on l'avait mis dans nos 5?
Oui.
Moi, je crois que je l'avais mis.
Oui, hein, on l'a mis tous les deux.
On l'a mis tous les deux.
Hein. Donc, là-dessus, on est plutôt pas mal.
Et t'avais raison quand tu disais que tu vois, il allait jouer des plus petites équipes et du coup, il marque tout le temps.
Ouais.
Mais il y a quand même Mario Lazio aussi. Bon, ça n'avait pas servi à grand chose, mais il avait marqué.
Mais là, ils vont affronter la Juve et la Roma, le Napoli.
Mais c'est vraiment, on peut dire que c'est aussi l'attraction, tu vois, tous les week-ends, tu regardes quand même d'un œil intrigué, savoir si Piontek va, enfin, Piontek, pardon. après, on va se faire engueuler. Mais c'est
un peu le running gag de chaque week-end, il a marqué.
Piontek, exactement. Et puis voilà, ça commence aussi à prendre. Bon, même niveau mercato, ça c'est des rumeurs un peu bateau dès le début. Mais c'est vrai que s'il continue comme ça, honnêtement, il fera une saison au Genoa. Et puis je pense qu'après, t'auras un gros club qui va miser dessus parce que, à ce rythme-là, bon, je pense qu'il va s'arrêter un jour quand même. Mais s'il, comme tu disais, il a déjà 9 buts.
Ce qui va être intéressant de voir, c'est s'il est capable de marquer aussi contre les très grosses équipes de Serie A avec des défenseurs qui sont quand même plus agressifs sur l'homme. Qui sont un peu moins lâches, on va dire, dans le marquage.
Juve, t'auras un bon test. Hein.
Même contre le Napoli, avec la charnière Alba, Koulibaly, Manolas Fazio ensuite derrière, il y a quand même des équipes qu'il va rencontrer qui vont nous permettre de le juger
c'est
aussi
vrai.
Un peu sur
oui,
des.
C'est vrai que ça va nous aider pour la Juve.
Sur des matchs un peu plus importants. Piontek, donc c'était l'inconnu. Moi, je vais retenir un joueur beaucoup plus connu. Daniele De Rossi. Capitaine de la Roma, capitaine de l'an 2 de la Roma après Francesco Totti.
C'était long.
C'est ça. Qui a quand même 35 ans et qui, si on devait se risquer a décerné le titre de meilleur joueur de la Roma depuis le début de la saison, ben, ce serait certainement lui. Ce qui est à la fois très bien et qui montre aussi que tout son travail physique cet été paye. Parce que moi, très honnêtement, quand je l'ai vu arriver au tout début du stage de pré-saison, j'ai eu du mal à le reconnaître. Heureusement qu'il avait sa grande barbe. Parce que il était affûté comme je l'ai jamais vu à la Roma. Et d'ailleurs, pour en avoir parlé avec des personnes qui sont au club, ils ne l'ont jamais vu non plus comme ça. Il arrivait aminci. Parce qu'il le sait aussi, c'est que plus t'avances en âge, et c'est un peu comme Totti, hein. Totti avait tendance jusqu'à 30 ans à avoir un peu 2-3 kilos de plus, et puis c'était vraiment mis à la diète quand il fallait, quand il avait décidé d'aller beaucoup plus loin dans sa carrière et de faire encore beaucoup de saisons. Bah là, De Rossi, j'ai le sentiment que c'est un peu la même chose, c'est qu'il a vraiment fondu cet été. Non pas qu'il était gros, hein, mais il était un peu plus lourd quand même. Et là, ça paye puisqu'il est plus dynamique. C'est quand même un des reproches qu'on lui faisait ces dernières années, c'est que c'était un peu pépère dans un fauteuil, 2-3 mètres en accélérant, etc. Et là, il est quand même beaucoup plus dynamique. Il a enchaîné les matchs. Alors là, il est blessé puisqu'il a un doigt de pied cassé. Normalement, il devrait revenir juste après la trêve. Mais c'est le joueur qui a été le plus régulier. Quid de son avenir, on sait qu'il est en fin de contrat cet été. Il était déjà en fin de contrat l'été précédent, il a prolongé d'un an. Il se murmure, et c'est ce qu'a publié le Corriere dello Sport ce matin, qu'il y a déjà un accord pour prolonger encore d'une saison, donc pour un contrat jusqu'en 2020, à la fin de cette saison, et que le rendez-vous est prévu pour début 2019 avec Monchi. Lui, on sait que il rêve d'une expérience à l'étranger, et principalement aux États-Unis. Il en parle souvent, il apprécie la culture américaine dans son ensemble. Il sait qu'une expérience de vie en dehors de Rome, ça ne pourrait que concerner les États-Unis, qui quittera pas Rome pour aller n'importe où. Maintenant, 35 ans, l'été prochain 36, s'il prolonge, ça fera encore un an 37. Ça risque d'être un peu compliqué après pour jouer aux États-Unis, donc il va être un vrai choix là. On imagine assez que s'il prolonge encore d'un an, ça pourrait signifier sa fin de carrière en 2020. Puisque après, derrière, à 37 ans en MLS, où il y a quand même un peu d'intensité dans les duels et tout, ça peut être un peu compliqué. Donc affaire à suivre, mais il est vraiment revenu à un niveau très intéressant. Et pour la Roma, c'est quand même très important, puisqu'il y a quand même pas mal d'incertitudes jusqu'à présent au milieu de terrain. Guillaume, la Juve. La Juve écrase tout.
Bah, fallait quand même le dire. Je pense que c'est. Après, voilà, ça ressemble maintenant à une évidence, mais c'est quand même impressionnant ce qu'ils font. Il faut le souligner. Ils n'ont pas raté un match. Ils ont tout gagné. Ouais, les champions, ils ont tout gagné aussi. Ils ont connu des difficultés, comme Ronaldo expulsé à Valence. Ils auraient pu s'écrouler. Et finalement, ils ont réalisé quasiment le match le plus maîtrisé de la saison à 10 contre 11 à Valence. Non, ben voilà, Ronaldo, on va pas parler spécifiquement lui. Moi, c'est vraiment la Juve que je voulais parler parce que, enfin, tu regardes leur match et je pense que quand t'es supporter, alors bon, t'en as beaucoup qui réclament plus de jeux, plus de spectacles.
Éternel débat avec Allegri, hein.
Voilà, mais alors moi, je l'ai vu en conférence de presse samedi, j'ai regardé, et il m'a fait rire parce que l'une des premières réponses qu'il donne, c'est bon bah, il fait un monologue et puis dit bon bah, je sais que à Udine, ça va être compliqué, je sais que ça va être un match pas facile. Je sais que voilà, ça sera dangereux, mais l'important, c'est de gagner. Moi, je veux gagner. Mais vraiment d'un ton assez drôle. Et c'est là que je me suis dit, bon, voilà, ça, c'est Allegri. Allegri, il n'est pas là pour vulgairement enfiler les perles. Lui, il veut gagner. Après, voilà, il y a quand même du mieux. Voilà, on peut dire quand même qu'il y a quand même du mieux. C'est dans le contenu, même les joueurs se trouvent mieux, comme je disais devant. La mayonnaise commence à prendre entre les trois, et c'est important. Donc non, là, je tenais à quand même saluer leur début de saison qui est exceptionnel. Il est parfait. Alors, en Italie, j'ai eu des débats pour savoir si c'était la meilleure Juve de tous les temps. Ça, c'est vraiment un débat. Je pense qu'il faudra 8 podcasts pour en parler. Mais voilà, je pense qu'il fallait quand même en parler, même si. Bon, est-ce qu'on peut dire que le championnat est terminé? Je pense pas.
Oui, si.
Si, on le dit.
Ah oui, je pense, oui.
Oui, je pense que oui. Bon, bah, alors disons-le. Non, mais tu as raison, parce que de toute façon. Ils ont battu le Napoli, qui est quand même leur principal adversaire. Après, voilà, ils ont l'Inter à jouer, Milan à jouer.
La Roma.
La Roma a joué, donc bon, ils ont aussi un calendrier plutôt simple, entre gros guillemets. Mais bon,
oui, moi, ce que je trouve vraiment impressionnant avec cette équipe, c'est que, hormis 2 fois 20 minutes contre la Lazio et le Napoli, ils ont jamais été en danger. Mais jamais. Que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Tu vois, t'as des équipes qui dominent, par exemple, comme le PSG, mais qui a été en difficulté plus d'une mi-temps contre Lyon, qui a été en difficulté un peu à Nîmes. Voilà. Eux, jamais. Jamais ça panique, jamais c'est.
Et dis-toi que s'ils en ont, comme l'expulsion Ronaldo à Valence,
ça change rien.
Ils s'exaltent avec ça.
Ouais.
Ils sont à 10 contre 11 pendant 80 minutes, enfin un peu moins, et il s'est fait expulser à la 28e, si je ne m'abuse, ou à la 29e. Et ben ils font quoi? Et ben ils ont fait le match parfait. C'était maîtrisé, Matuidi courait pour deux. Ils ont rien risqué, rien. Il y avait 0-0 hein, quand il fait expulser Ronaldo.
Ouais.
Donc comme tu dis, ils risquent jamais rien. Ils dégagent une solidité qui est quand même monstrueuse. Et quand ils ont un bâton dans les roues, une difficulté, et ben ils s'exaltent et il leur arrive rien. Et comme tu dis, il y avait vraiment ce sentiment de force, enfin, cette force absolue qui sera quand même difficile à contraster pour n'importe quelle équipe cette année en Serie A.
Alors, on vient de parler du top de la Serie A. Mon dernier point concerne une équipe en grande difficulté. C'est l'Atalanta. 17e de Serie A cette saison. Une seule victoire en 8 journées. C'est quand même très loin de ce qu'elle nous avait proposé en termes de résultats la saison passée. Maintenant, pour autant, les résultats sont pas là, mais les prestations sont pas mal du tout. C'est loin d'être catastrophique. On peut s'imaginer 17e, une seule victoire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, etc. Pourtant, dans le jeu, c'est vraiment pas mal. Et je voulais, j'ai cherché des stats sur WhoScored et sur je sais plus le nom du site pour les expected goals et expected points, mais je voulais voir si dans les stats ça se vérifiait un peu.
Il méritait plus, ouais.
Voilà, et par exemple, 4e équipe avec le plus de tirs effectués en Serie A, 3e équipe avec le plus de corners en Serie A cette saison, 6e équipe avec le plus de possessions. Si on prend le classement des expected points, donc c'est selon la qualité des occasions fournies et ce qui se passe dans les matchs, ils sont quand même à 12,36 points, ils ont 6 en réalité. C'est-à-dire qu'ils ont moitié moins de ce qu'ils auraient pu espérer avec le contenu des matchs, en fait.
Ouais.
Ils encaissent plus de buts qu'attendus. Oui, attention au lapsus. On n'a rien entendu. Ils encaissent plus de buts qu'attendus. Ils en marquent moins qu'attendus. Donc voilà, c'est un problème d'efficacité dans les deux surfaces, en l'occurrence. Parce qu'en dehors de Gomez, offensivement, qui est déjà, je crois, sans dire de bêtises, à 3 buts. Je pense pas me tromper.
Zapata, ouais, non, mais je pensais à Zapata, et c'est vrai qu'il y avait un débat, je me rappelle, sur Sky ce week-end, et il disait que finalement la Samp a eu raison de le vendre, parce que tu vois, ils ont récupéré des frêles.
Ouais. Et pour l'instant, c'est 8 matchs, Zapata 0 but, hein.
Et voilà. Et pourtant, Dieu sait que.
On pensait que c'était une recrue forte.
Ouais, et j'aime Douvan, parce que c'est vrai qu'il est un joueur qui est toujours particulier à jouer, parce que c'est un monstre physiquement. Contre Milan, quand ils ont fait le match nul 2-2, il a tout changé avec son entrée à la mi-temps. Et pourtant, il a 0 but. Et c'est vrai, comme tu dis, que après, moi, je pense aussi que leur élimination contre Copenhague, oui, en préliminaire d'Europa League, leur a mis un coup aussi au moral. Ça a cassé un peu, tu sais, l'enthousiasme qu'il y avait autour de l'Atalanta, même
et
des
ça,
joueurs.
Et ça, il faut pas le négliger, puisque moi, j'ai pensé à ça justement tout à l'heure en préparant le podcast, à cette élimination, et je me suis souvenu de la Roma qui avait eu, alors je crois que c'est la saison de Luis Enrique, si je dis pas de bêtises, et ils font sortir par le Slovan Bratislava en tour préliminaire de la C3, et ça avait plombé la saison aussi.
Eh oui, mais c'est pas étonnant parce que moralement, bah ça te coupe les jambes, tu perds un truc, et en plus, alors ce qui est particulier avec l'Atalanta, c'est que ils ont pensé qu'ils auraient peut-être un tour en moins, tu sais, avec Milan qui était peut-être exclu aussi.
Oui.
Donc ça aurait pu leur faire un tour en moins, et finalement non. Donc même dans la préparation, ça a été un peu bouleversé. Et ils perdent contre Copenhague après 2 matchs où ils méritent de gagner quand même. Et pourtant ils sont éliminés au penalty là-bas, à l'extérieur. Et forcément après, bah voilà, tu perds le moral, tu joues une fois par semaine, il faut t'en remettre dedans. Donc oui, forcément.
Et surtout parce que.
Vas-y.
Gasperini va devoir gérer un truc qui est quand même important, c'est que ils avaient doublé quasiment tous les postes pour jouer cette Europa League à fond. Là, ils ont quand même 26 joueurs dans l'effectif professionnel. Il y en a que 11 hein, chaque week-end qui vont jouer. Hein. Donc même si l'effectif professionnel comporte 2 jeunes de 18 et 20 ans, même si on reste à 24 joueurs, c'est quand même énorme pour une équipe qui va jouer une seule fois par semaine.
Ouais.
Il va y avoir beaucoup de frustration sur certains joueurs. Parce que si tu prends le milieu de terrain entre Pasalic, Ilicic, Rigoni, De Roon, Gomez, Freuler, bon, il y en a quand même pas mal qui vont rester sur le banc, hein, dans cette liste-là.
Et surtout aussi, on peut le dire, ils ont perdu Caldara.
Oui.
Et en défense, quand tu perds Caldara, alors même si à Milan, voilà, il y a quelques problèmes physiques qui l'ont poussé à ne pas jouer, ils ont perdu Caldara et ça se sent, ça se ressent, ça se voit. La défense, bah, là, elle tremble tout le temps. Et c'est vrai que voilà, sa vente. D'ailleurs, tu te rappelles, Gasperini n'était pas content du mercato.
Oui. Il avait exactement. Dit, et dès le début de la saison. Hein.
Voilà, ouais, ça avait créé un peu polémique. Et c'est vrai que bon, bah, Caldara, c'est une vente qui a fait beaucoup, beaucoup de mal à la défense de l'Atalanta.
Un joueur, tiens, on parlait de la défense de l'Atalanta, un joueur que j'aime bien et que je suis de manière assez régulière, c'est le Néerlandais Attebourg, qui est latéral droit, et je le trouve vraiment assez intéressant. Et je pense que il y a certains clubs un peu mieux classés qui auraient tout intérêt à se pencher sur son cas. Dernier point qu'on voulait évoquer, Guillaume, c'est donc des gros clubs qui se cherchent, parce qu'en dehors de la Juve et du Napoli, bah, le Milan, l'Inter, la Roma, la Lazio, il y a des hauts et il y a des bas en fait.
Bon, alors bon, forcément on en parle quand l'Inter enchaîne les matchs, les victoires, Milan aussi, la Roma va mieux, la Lazio a gagné. Non,
mais donc c'est
forcément
un bilan global de tout le début.
Exactement, exactement. Même le Napoli, ils ont tenu quand même, ils ont mis du temps, mais bon, ils ont eu les bons résultats quand même. C'est sûr que tu prends, voilà, on va pas faire cas par cas, on l'a déjà fait beaucoup de fois, mais c'est vrai que ce soit Spalletti, même Inzaghi à Lazio, Gattuso à Milan, Di Francesco à Rome qui était quand même sur la sellette, on peut dire ça, après sa défaite à Bologne. Ils ont tâtonné et pour le système tactique, et pour les joueurs à mettre, bon, moins à Lazio, hein, mais quand même dans la globalité de la chose, même s'ils commencent à trouver un peu leur équilibre, c'est quand même des clubs qui ont beaucoup tâtonné, qui ont mis du temps à chercher, même voilà, au niveau mental, il y a des joueurs qui étaient pas, qui se mettent petit à petit dedans, mais c'est vrai que c'est des clubs qui ont tâtonné, et forcément, t'as perdu des points en route. Inter qui perd Sassuolo, Milan qui perd des points contre Cagliari, contre Empoli. La Lazio, ils ont perdu des points aussi. Ils ont perdu contre la Juve. Bon, tu me diras, c'est pas un drame en première journée, non. Mais ils ont perdu des points aussi à la Lazio. La Roma,
on a perdu à Bologne.
Quand tu perds à Bologne, contre l'Atalanta, ils font 3-3 et ils mènent pourtant au score. Donc forcément, tu vois, c'est des points qui vont peser aussi sur le championnat. Et d'ailleurs, ils sont tous loin de la Juve. On va dire qu'ils sont pas tout prêts. Ah, voilà, on peut dire que les gros clubs, ils ont mis du temps à se mettre en route et ça mérite d'être souligné parce que c'est vrai que c'était des situations qu'on pouvait, qui se ressemblaient en fonction des équipes. C'est vrai que c'était des situations un peu pareilles. Je trouvais ça intéressant de le dire dans les cas sujets parce que il y a eu beaucoup de tâtonnements et ça se ressent surtout au classement.
Et justement, en fait, tout à l'heure, je disais que mon dernier point c'était l'Atalanta. J'en étais qu'à 3 et mon dernier point c'était un peu ça aussi. Moi, j'avais appelé ça le laboratoire un peu grandeur nature de ces clubs-là parce que je trouve que il y a des entraîneurs qui ont fait beaucoup de tests un peu surprenants avec des changements de position de joueurs qu'on n'attendait pas forcément. Alors j'en ai pris un par gros club. Alors j'exclus la Juve hein, puisque non j'exclus pas la Juve. C'est le Milan que j'ai exclu puisque le Milan, on sait Gattuso c'est son 4-3-3 avec les trois mêmes milieux de terrain, les trois mêmes attaquants et les défenseurs restent. Donc il n'y a pas vraiment eu de changement de position. Mais si on prend la Roma par exemple, il y a quand même eu Pellegrini en numéro 10 qui était tout sauf attendu. À la Juve il y a quand même eu Bernardeschi relayeur. À Naples Zielinski qui a joué milieu gauche. Fabian Ruiz qui a joué aussi milieu gauche. À l'Inter, on a quand même eu droit à Skriniar arrière droit, au moment où Spalletti se cherchait entre défense à 3, défense à 4, défense à 4, mais avec 3 centraux, c'était un peu curieux. Donc voilà, on a quand même eu des tests un peu surprenants, des entraîneurs qui se cherchaient, aussi tactiquement. Grosso modo, hormis l'Inter qui a oscillé, je viens de le dire, entre le 4-2-3-1 et le 3-4-3, la Roma, le Napoli et la Juve ont tous utilisé au moins 3 schémas tactiques totalement différents. Donc en 8 journées c'est quand même beaucoup.
Ouais.
Donc le seul truc que j'arrive pas encore à percevoir c'est le pourquoi de tous ces tests. Parce que au départ quand alors certes il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés mais rien qui fondamentalement est censé perturber un équilibre qui avait bien marché de la saison passée. Je prends l'exemple de la Roma et du Napoli. les deux étant 4-3-3, ça marchait très bien comme ça la saison passée. Il n'y avait pas forcément de besoin de tout chambouler. La Juve, c'est un peu différent parce que Ronaldo change vraiment l'équilibre de l'équipe. Mais pour autant, ils ont beaucoup cherché à innover et à se donner d'autres possibilités. La seule explication que j'ai, mais je suis pas persuadé que ce soit la bonne, c'est que pour la Ligue des Champions et face à d'autres styles de jeu et d'autres cultures de jeu, il faut être suffisamment armé pour maîtriser différentes solutions selon les problèmes que nous pose l'adversaire. C'est vraiment la seule solution pour la Roma et le Napoli que j'ai un peu trouvé, sans être totalement convaincu de cette explication. Mais voilà, ce qu'on constate tous les deux, c'est que il y a eu beaucoup de tests dans les joueurs, dans les schémas, et c'est peut-être pas fini, même si, par exemple, si on prend l'Inter, le 4-2-3-1 est vraiment bien intégré maintenant.
Ouais,
le Napoli, on est quand même bien passé sur un 4-4-2, ouais. Et la Roma, on est quand même assez sécure sur le 4-2-3-1, donc a priori...
Ouais, mais là, le 4-2-3-1 à la mode, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment le schéma en ce moment.
C'est revenu à la mode après la période 4-3-3 post-Guardiola et tous ses entraîneurs, Sarri... qui ont vraiment beaucoup misé sur ce schéma-là. Troisième sujet, Guillaume, on approche de l'heure de débat déjà, le choix des tweetos. Et c'était donc Alan avec la Nationale.
Ouais, ça ferait une parfaite transition avec la Nationale, en plus.
Exactement. Parfait. Alors, les prochains matchs de l'équipe d'Italie, c'est mercredi soir, Italie-Ukraine, 20h45 à Gênes. Pologne-Italie, donc ça c'est dans le... donc Italie-Ukraine c'est un match amical et dans le cadre de la Ligue des Nations, cette formidable compétition. Pologne-Italie dimanche soir 14 octobre à 20h45. On commence sur Alan et puis on dérivera tranquillement sur la liste de Mancini et de ses choix. Alors pourquoi on parle d'Alan, c'est parce qu'il y a eu dans la presse italienne ces derniers jours et ces dernières heures des informations qui ont circulé sur un intérêt de l'équipe d'Italie, donc de Roberto Mancini forcément, pour convaincre Alan, qui a le double passeport italien-brésilien, de rejoindre les rangs de la sélection italienne, puisque il est snobé par Tite, l'entraîneur, enfin le sélectionneur brésilien. Alors Roberto Mancini a un peu dégonflé ça en conférence de presse, après on n'est pas obligé de le croire non plus, en disant qu'il n'y avait pas eu de contact et que c'était pas dans leur dans leur plan immédiat, on va dire. Maintenant, moi, je serais Roberto Mancini. Honnêtement, je ferais tout mon possible pour le convaincre. Parce qu'on imagine un milieu de terrain Verratti, Jorginho, Alan, qui serait quand même intéressant, parce qu'Alan a un profil, je vais pas dire unique, parce que j'ai réfléchi un peu à ça tout à l'heure. J'essaie de trouver des joueurs qui rentraient un peu dans ce schéma-là. Le seul que j'ai trouvé, mais Alan se projette moins offensivement, mais dans l'esprit du duel, du dynamisme, de la densité physique, c'était le Vidal de la Juve.
Oui,
mais
c'est
Vidal
vrai,
se
oui.
projetait quand même beaucoup plus offensivement qu'Alan ne le fait. Mais c'est un peu dans cette idée-là, dans tout ce que je viens d'expliquer. Et c'est surtout ce qui manque aujourd'hui, vraiment et réellement à ce milieu de la Nationale.
Après, moi, Alan, combien de fois on en a parlé dans les podcasts précédents. Écoute, s'il faut prendre l'avion pour aller à Naples maintenant, moi j'y vais, hein. C'est pas un souci, hein. S'il faut le convaincre, s'il faut l'appeler, s'il faut le... Enfin, évidemment que Mancini va le convaincre après. Voilà, Mancini, il disait qu'il n'y avait pas assez de jeunes Italiens qui jouaient. Voilà, bon, ça contradira un peu avec son discours, mais voilà, s'il a la possibilité de jouer avec l'Italie, si lui en a envie, et si Mancini en a envie, enfin, j'aurais beaucoup de doutes qu'il dise non, parce que c'est quand même l'un des meilleurs milieux de la Serie A. Si ce n'est
le meilleur depuis le début de la saison.
Exactement, parce qu'il est exceptionnel. Il a dû faire aller, il avait pu passer à côté d'un match peut-être où il a pas été bon, mais sinon il est tellement régulier et dans tous les duels il gagne tout. Et bien évidemment que ce serait un joueur qui serait bienvenu en national et surtout qu'il est en reconstruction. Après on sait qu'en Italie voilà il y a quand même, on sait qu'on a du mal généralement avec, on les appelle les Oriundi. Bon,
t'imagines que ça pourrait faire un milieu avec deux Oriundi, hein, avec Jorginho et Alan, non?
Eh oui, c'est vrai que c'est toujours un peu un débat en Italie.
Ça l'est peut-être un peu moins, je trouve, ces dernières années. Disons que juste après Camoranesi, qui était un des premiers,
exactement,
si ce n'est le premier, je sais plus trop.
Ouais.
Lui, ça avait été intégré un peu difficilement au départ. Après, il y a eu pas mal de débats sur d'autres joueurs, mais après, j'ai l'impression qu'on en a appelé beaucoup. Tu vois, il y a eu des joueurs comme Ledesma, qui honnêtement avait rien à faire là. Hein.
Oui,
de mon humble avis, mais il y a eu Eder aussi. J'ai l'impression que tu vois, c'est un peu plus passé dans les mœurs. Alors certes, t'auras toujours le côté un peu traditionnel et conservateur et voire nationaliste de certains qui t'expliquent que voilà, c'est des joueurs brésiliens qui ont certes le double passeport et c'est pas comme des Italiens, etc. Mais il y en a eu tellement ces dernières années que j'ai l'impression que c'est un peu moins polémique en tout cas qu'avant.
Un peu moins, c'est vrai. Non, c'est vrai. Après, voilà, pour revenir spécifiquement sur Alan, enfin comme tu dis, s'il faut le convaincre de venir et surtout s'il a la possibilité de venir, bah, il faut y aller tout de suite maintenant et pas attendre demain matin. Partir, prendre le train et l'avion et puis aller convaincre Alan de nous rejoindre parce que c'est vrai qu'en plus on est en pleine reconstruction. Donc c'est important pour la nationale d'avoir un pilier comme Alan au milieu de terrain, comme tu dis, avec Verratti, Jorginho, ce serait très très intéressant à regarder et à voir.
On parlait des duels, une des spécialités d'Alan, sa densité physique dans les duels et le fait qu'il va très vite dans les pieds des adversaires. Je me souviens d'une stat là que j'avais vu passer il y a quelques années, puisque c'était à l'époque où Alan jouait à l'Udinese. C'était sa dernière saison à l'Udinese et c'était quand même le joueur qui avait gagné le plus de duels dans tout le championnat. Dans toute la série.
C'est pas étonnant.
Donc pourtant c'était dans un club comme l'Udinese, hein, donc qui est pas forcément un très très gros club. Alors on dérive légèrement sur la liste, les convoqués de Roberto Mancini.
Vas-y.
Donc on l'a dit tout à l'heure, Cutrone, Romagnoli, D'Ambrosio et Zaza sont out. Ils étaient convoqués mais ils sont out. Ont été
dont
appelés.
Dont trois disputent. Le derby de Milan.
Exactement. D'ailleurs, Brozovic aussi a quitté, je crois, le rassemblement de la Croatie. Ont été appelés Piccini, l'arrière droit de Valence. Tonelli, qui est prêté, si je dis pas de bêtises, à la Samp, défenseur central de la Samp.
Qui a marqué
et roulement de tambour, on l'a appris ce mardi. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Kevin Lasagna. Alors non, ce n'est pas un plat de pâtes. On vous voit venir d'avance. Kevin Lasagna, l'attaquant de l'Udinese, qui est en soi un attaquant tout à fait honnête de Serie A.
Oui,
voire même un bon attaquant de Serie A.
Voilà, un bon attaquant, c'est bien.
Entre les deux, on va dire, mais oui. Qui, très sincèrement, n'a pas grand-chose à faire dans cette sélection. Et aujourd'hui, alors, on va parler d'abord du secteur offensif, parce que c'est là, je pense, où il y a le plus de choses à dire. Il faut quand même rappeler que Balotelli et Belotti n'ont pas été convoqués. Raison officielle de Mancini, ils sont pas assez en forme physiquement. C'est vrai qu'ils l'étaient beaucoup plus il y a un mois quand il les a appelés, hein, on va pas se mentir. Et donc, avec les forfaits de Cutrone et de Zaza, on se retrouve avec, dans le secteur offensif, des joueurs comme Gianluca Caprari, Sebastian Giovinco, qui joue à Toronto, ne l'oublions pas, et donc ce bon vieux Kevin Lasagna. Alors, heureusement, il y a quand même... Tout n'est pas noir, il y a quand même Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Federico Chiesa et Domenico Berardi. Mais quand même, le réservoir, c'est un peu compliqué.
Oui. Après, voilà, il n'a pas de chance, Cutrone s'est blessé, c'est vrai que ça aurait été intéressant de le voir aussi, ça aurait fait un élan de jeunesse, et puis voilà, Cutrone, il a un peu cette niaque qui parfois manque au national. Après, moi, c'est surtout Giovinco qui m'a... Et beaucoup d'autres dans la liste, parce que c'est vrai qu'on en parlera peut-être dans quelques minutes, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de continuité, beaucoup de changements, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais moi, Giovinco, c'est un joueur que j'ai adoré. Évidemment que son profil est intéressant, il a eu des belles années. À mon avis, il a un peu gâché sa carrière en partant en MLS. Mais pour moi, c'est marché reculons. Enfin, tu veux reconstruire la nationale et tu t'appelles Giovinco qui a 31 ans, ça veut dire que tu vas où? Alors peut-être qu'il sera pas titulaire, peut-être que c'est un one shot avec voilà, il a décidé.
Oui, mais c'est un one shot qui sert à rien.
Exactement, mais je suis d'accord avec toi et ça je comprends pas. Et c'est encore une fois, je critique pas Giovinco en soi qui était peut-être ou qui est encore un très bon joueur, mais si tu veux reconstruire la nationale, il faut construire avec des éléments qui vont rester à long terme. Tu peux pas avoir Giovinco qui n'était pas là depuis 3 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le prends pour faire quoi? Pour aller où? Pour c'est encore et je pense honnêtement. Hein,
quel est le projet?
Et je pense que même lui, il a été surpris. Enfin, j'aurais du mal, il ne devait pas se dire tiens, demain Mancini va m'appeler, on va me convoquer. Je pense pas qu'il l'attendait spécifiquement et pourtant il a été appelé. C'est un bon joueur, moi j'ai toujours bien aimé avant, c'est vrai. Et quand il était dans la force de l'âge. Maintenant, honnêtement, je vois pas à quoi ça sert. Honnêtement, je comprends pas trop le projet de Mancini et je pense qu'on te rappelle, c'était il y a quelques heures, mais on en parlait en off. Et le fait que Mancini, je vais te laisser la parole, le fait que Mancini change encore et encore des joueurs.
Oui, parce qu'en faisant la liste et en comparant avec celle du mois de septembre, j'ai quand même vu quand même beaucoup de différences. On a compté, donc il y a 9 joueurs qui étaient là en septembre qui ne sont pas là pour ce rassemblement. Il y a beaucoup, c'est pas sur blessure, c'est ça qui est le plus inquiétant. Alors il y a Cristante qui lui paye son mauvais début de saison, donc semble assez logique. Bon, il y a Nicolò Zaniolo qui avait été appelé l'autre fois, qui était quand même très surprenant et bon, qui était peut-être une étape de griller un peu trop rapidement. Il y a donc Balotelli et Belotti, donc on en a parlé tout à l'heure, qui sont pas assez en forme physiquement. Hein.
Comme si Balotelli l'était il y a un mois.
Exactement. Donc bon, la justification est quand même très particulière. Il y a Davide Zappacosta, Rugani aussi, Caldara et Lazzari, qui a sans doute réalisé son meilleur match, mais ça, il pouvait pas le savoir avant. Mais en fait, tu vois, par exemple, Lazzari, je me demande quelle est la différence entre le Lazzari du mois de septembre et le Lazzari du mois d'octobre. Et surtout, si tu l'as appelé au mois de septembre, imaginons que c'est quand même ton premier réserviste, entre guillemets, en cas de défection à ce poste-là, et ben non, tu vas chercher encore un autre joueur qui n'a pas connu la sélection, avec Piccini. Donc, oui, je veux bien qu'on fasse une revue d'effectifs, etc. Mais là, si ça continue et qu'il change 10 joueurs par liste, c'est sûr qu'il aura vite fait le tour tous les joueurs sélectionnables.
Comme tu dis, une revue d'effectifs, d'accord. il cherche un noyau, il cherche des joueurs, voilà. Mais vraiment, tu n'as pas croqué tous les Italiens qu'il y a dans le monde. Sinon, tu n'as pas fini. Il faut quand même que tu aies une base. Ouais. Voilà, imaginons que tu fais une équipe, je sais pas, tu as une liste de 40 joueurs. Bon, bah, tu choisis dans celle-là, mais tu peux pas convoquer à chaque fois les nouveaux joueurs.
Ah bah là, on est déjà, je pense qu'on est déjà à plus de 40 sur les deux listes. Hein.
Mais évidemment, parce que, mais voilà, où va le projet? C'est ça qui m'inquiète. Alors, tout à l'heure, j'ai vu le 11 probable. Il est séduisant.
Oui, il a encore de, voilà.
Voilà, il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Moi qui suis pessimiste, je pense qu'il y a un potentiel. Après, bon, je suis comme toi, j'ai du mal à comprendre certains noms. Je comprends pas le projet, je comprends pas où on va. Maintenant, j'ai envie de voir aussi ce qu'on va voir sur le terrain. J'ai envie de voir le jeu. C'est un minimum de continuité. J'ai envie de voir le schéma qu'il va mettre. Parce que bon, le 4-2-4, le 4-3-3, bon, normalement, j'ai envie de voir aussi un minimum de continuité dans le jeu. Quelle trame? Si on veut jouer au football, si on veut pas jouer, si. Non, je veux voir quand même quelque chose de logique. Je veux voir de la continuité, entre les deux matchs. Je veux commencer quand même à voir le bout du tunnel qui est très long. Parce que chez moi, pour le moment, c'est tout noir, je vois rien. Et j'aimerais bien, petit à petit, voilà, avoir un minimum de logique, de sens. Et j'espère que Mancini, on va voir demain ce qui se passe contre l'Ukraine. Donc demain, c'est mercredi, parce qu'on enregistre mardi soir. Mais voilà, je suis impatient aussi de voir, surtout, c'est le plus important quand même, ce qui a passé sur le terrain. Et j'espère que Mancini, voilà, va donner un minimum de logique à son jeu et à son équipe.
Il y a des choses qui vont être intéressantes aussi, c'est est-ce que, ce qui se passe en Serie A va influencer les choix de Mancini et notamment en termes de positionnement.
Insigne.
Il y a deux joueurs pour ça. Il y a notamment Lorenzo Insigne, lui c'est depuis le début de la saison, et c'est aussi Lorenzo Pellegrini. Parce qu'on sait que Pellegrini, s'il y a Jorginho et Verratti, ça dépend du schéma, mais il est derrière. Sauf que s'il y a un milieu à trois, aux côtés de Jorginho et Verratti, il faut quelqu'un. Et entre Bonaventura, Gagliardini et Pellegrini. Bon, c'est un peu kiff-kiff, les profils sont pas tout à fait identiques, mais je vois personne avec une vraie longueur d'avance à ce niveau-là. Sauf que Pellegrini, sur les 15 derniers jours, c'est sans doute le meilleur joueur de la Roma, et il joue à un poste de numéro 10. Il joue plus du tout dans un milieu à 3, et on sait que ses premières prestations cette saison dans ce milieu à 3 ont été catastrophiques, notamment avec la sélection aussi. Est-ce qu'il va être influencé? Est-ce qu'il va mettre Insigne, le continuer à le mettre sur l'aile gauche? Est-ce qu'il va l'aligner dans un 4-4-2 avec Ciro Immobile en pointe, par exemple? Je sais pas. La composition probable que t'as vue, elle venait de Sky?
Je crois que venait de Sky.
Et là, ça venait.
Honnêtement, je l'ai plus en tête.
Ah, tu l'as
plus en tête. Je l'ai vraiment entreperçu. Mais bon, pour le coup, elle me paraît séduisante. Alors là, voilà, je donne noix à la bouche et. J'ai pas le papier sous mes yeux, mais c'est vrai qu'elle était pas mal, parce qu'avec Chiesa qui était normalement annoncé titulaire. Mais c'est vrai, comme tu dis, moi je suis intéressé et je suis intrigué aussi par savoir, parce que c'est vraiment intéressant de savoir s'il va mettre Insigne en position de numéro 9 comme il est à Naples. Et tout à l'heure je t'en parlais, Ancelotti a peut-être fait une trouvaille pour Naples et aussi pour la nationale, parce que en soi Insigne, si on regarde un peu son bilan avec l'Italie, il a jamais été très bon. il y a pas un match où il a survolé ou donc ce sera aussi intéressant de le voir dans un autre positionnement. Et faut profiter des matchs amicaux pour ça, parce qu'en Ligue des Nations on est quand même pas très bien parti.
Donc c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, donc ce serait intéressant de voilà de commencer à trouver, on va dire, trouver un schéma de jeu, une base, et ensuite une trame de jeu pour commencer à voilà avoir quand même un petit peu du projet de Mancini qu'on voit quand même pour le moment pas beaucoup.
Alors, qu'est-ce que nous dit la formation ? Je suis en train de regarder.
Attends, tu es en train de la chercher ?
Ouais, je l'ai. Non. Là, j'ai sur le site de Fox Sport Italie.
Bah, c'est ça, ça doit être ça.
J'ai un 4-3-3, du coup, pas 4-4-2. J'ai un 4-3-3 avec Donnarumma, ouais. Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito.
Ouais.
C'est ça que t'as vu ?
Criscito
ouais. Arrière-gauche, quand même très étonnant, puisqu'il joue beaucoup dans une défense à 3, je crois, si j'ai pas de bêtises, au Genoa.
Ouais. Milieu de terrain.
Milieu de terrain, Verratti en 6 avec Pellegrini Jorginho. À droite. Non, pas Jorginho, ouais. C'est ça qui est.
Pas Jorginho. Ah
non.
Ouais.
Et Nicolò Barella. Je ferai un petit focus sur lui la semaine prochaine.
Oui.
Parce que j'ai regardé un peu tout à l'heure et c'est un joueur qui est très intéressant. Et comme la semaine prochaine, on fera un petit pas un bilan, mais on parlera des joueurs à suivre cette saison en Serie A. Des joueurs un peu moins connus que les traditionnels Cristiano Ronaldo, Edin Dzeko, Icardi, etc. Bah, on le mettra dedans. Et ensuite, on aurait une attaque Chiesa, Immobile, Insigne.
Et Insigne dans son poste d'avant, du coup.
Voilà. Donc, okay. Pas bon, du tout influencé par...
Non. Bah, écoute, on verra bien. J'aurais été dit, on verra bien, parce que sur le papier, ça peut être intéressant, mais... Moi, j'attends surtout sur le terrain, voir le jeu. J'ai envie de dire, sur le moment, on est d'accord qu'on n'a rien vu quasiment.
Contre le Portugal, on n'a rien vu, ça c'est sûr. Enfin, on a vu beaucoup d'erreurs défensives. Alors, je suis en train de regarder aussi également Roberto Mancini, sa dernière conf. Il explique que ce sera un tridente devant.
Ah, bon, bah ça sera un 4-3.
Donc, ce sera un 4-3-3. Voilà.
Donc, bon, bah voilà, on a déjà le schéma de jeu. Maintenant, on a le schéma de jeu.
Il manque plus que certains joueurs.
Rendez-vous demain. Hein,
rendez-vous demain pour voir ça, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'interrogations. Hein. Là, on est un peu dans le flou, on est un peu comme Mancini. et puis quand même, moi, ce que je souligne quand même, c'est tu sais que quand j'ai découvert, c'était vendredi, non ? La liste, jeudi ou vendredi, je sais plus trop, qu'il a donné sa liste. Le premier nom que j'ai cherché, c'est Politano, et je ne l'ai pas trouvé.
Oui, eh ben tu fais bien le souligner parce que ça a notamment été dit sur Twitter et c'est vrai que Politano qui est l'un des meilleurs joueurs de l'Inter depuis le début de la saison, tu l'as dit beaucoup et tu as eu raison de le dire comme d'habitude parce que c'est vrai que c'est l'un des meilleurs éléments de Spalletti. Il est bon même quand il sort du banc en plein match. Il a été intéressant contre la Spal quand il est rentré et c'est vraiment un très bon joueur Politano honnêtement. Moi, je pensais pas qu'il aurait ce niveau-là dès le début à l'Inter, parce qu'il vient de Sassuolo quand même, donc il y a quand même une grande marche. En Ligue des Champions, il a été bon aussi, donc même contre Tottenham, si tu travailles bien. Donc, il fait ses matchs, et c'est vrai que c'est étonnant qu'il l'appelle pas, parce qu'il aurait grandement mérité. Et après, il y a d'autres joueurs qui ont été appelés, et qui n'ont pas forcément fait le début de saison de Politano, donc encore une fois... est-ce qu'il faut une revue d'effectifs un peu partout et puis il cherche sa liste un peu comme Deschamps, voilà, il appelle quasiment toujours les mêmes à part blessure. Est-ce que lui Mancini veut faire pareil, on appelle toujours les mêmes, je sais pas, pour le moment en tout cas il fait tout le contraire, mais c'est vrai que Politano aurait vraiment vraiment mérité d'être convoqué au national et il l'a pas fait, c'est vrai que c'est étonnant.
Et on conclura ce podcast par la phrase de Roberto Mancini en conférence de presse aujourd'hui. On lui demande quelle formation il va aligner demain. Il dit « Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura le trident en attaque. Sinon, j'ai encore beaucoup de doutes. » Hashtag sérénité totale.
Eh ben, les amis, le chemin va être long.
Exactement. Le chemin va être très très long et avec beaucoup 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 de joueurs différents, a priori. Ouais. Guillaume, on conclut là-dessus sur cette belle note d'optimisme envers la nationale et... Ce 10e podcast Calcio et Pépé, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos commentaires, vos retours, les feedbacks. On peut le dire en toutes les langues que vous voulez. sur ce podcast. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Twitter, sur Facebook. On vous réserve quelques petites surprises là pour les jours et semaines qui viennent pour d'autres moyens de nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur nos alias personnels sur Twitter. Guillaume, c'est Guillaume MP, tout attaché sur Twitter, et moi c'est Johan Crochet, tout attaché également sur Twitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On débriefera donc les deux matchs de l'équipe d'Italie. Hashtag dépression peut-être, ou hashtag au contraire bonne surprise. Et puis on parlera donc des joueurs à suivre cette saison en Serie A. Et puis Guillaume, on fera un focus particulier sur le derby de Milan qui se profile.
Et d'ailleurs j'y serai, donc je pourrais
exactement
en parler.
On essaiera de faire un sujet assez complet sur le derby, et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, sans doute lundi soir, pour débriefer tout cela. Bonne semaine, bon week-end, et non, il n'y a pas de week-end de football malheureusement, on allait dire bon week-end de Serie A, et ben non, c'est raté, exact. Mais bon, bon match.
Bonne semaine de football.
Bonne semaine de football, point. À la semaine prochaine, ouais. Salut Guillaume.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.